Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à vous tous. La chaleur, le soleil nous sont revenus et risquent de peser lourd dans quelques temps. Nous allons donc essayer de regarder avec optimisme aujourd'hui les futures canicules annoncées. Et pour en parler, eh bien je reçois Stéphane Jouot. Stéphane Jouot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au maire de Montpellier, en charge des espaces verts, de la biodiversité urbaine, de la végétalisation des quartiers. En fait, un immense programme important en temps de réchauffement climatique. Et vous n'êtes pas arrivé là par hasard, puisque vous faites partie des écolos, je l'ai mis entre guillemets bien sûr, au conseil municipal.
Et oui, effectivement, je fais partie du groupe de 12 élus écologistes qui se sont alliés avec le maire Michaël Delafosse au deuxième tour des dernières élections municipales, avec cette idée de pousser fort dans la direction de l'adaptation de la ville au changement climatique. On a eu un mandat précédent où on a perdu beaucoup de temps. Donc vraiment, on avait eu cette envie de faire basculer
pourquoi
les choses.
Pourquoi vous dites on a perdu beaucoup de temps? Pourquoi?
Parce que, en fait, en 6 ans, en termes d'adaptation de la ville aux nouvelles conditions climatiques, il n'a quasiment rien été fait. Et on est parti de ce qui s'était arrêté en 2014, finalement, et on a repris en 2020 une politique qui allait vraiment dans le sens de l'écologie. L'exemple le plus parlant, c'est l'exemple du vélo, puisque pendant tout un mandat, en fait, le réseau vélo s'est arrêté, il a fallu tout reprendre.
D'accord. Alors, vous voilà maintenant à un poste qui, hier, faisait un peu sourire, puisque, on le disait, chargé des petites fleurs et des petits oiseaux, ça faisait un peu ricaner, quoi, et qui, aujourd'hui, prend une ampleur particulière. Que faire pour une ville qui est en plein bouleversement climatique ?
Oui, c'est vrai que la question de la végétalisation est maintenant devenue centrale. Elle n'est pas réservée à la question des seuls espaces verts. C'est vrai que mes prédécesseurs, en fait, étaient adjoints aux espaces verts. Moi, ma délégation, elle est sur la nature en ville et la biodiversité, ce qui veut dire que ça prend un spectre beaucoup plus large. Donc, je m'intéresse évidemment aux parcs et jardins, mais mon travail porte aussi sur des questions d'aménagement de l'espace public de façon globale, d'urbanisme. J'ai participé notamment à la préparation du futur PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, sur le classement des espaces boisés, sur l'espace public mais aussi privé. J'ai créé un comité
arbre. Alors tout ça, c'est un peu administratif.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce plan urbain?
Alors le plan local d'urbanisme, il est là pour déterminer différentes zones dans le territoire. On a ce qu'on appelle les zones U, les zones urbanisées ou urbanisables où c'est construit de façon toute simple. Mais on a aussi les zones A, zones agricoles, les zones N, zones nature. Donc définir ces zones, c'est définir le devenir du territoire et comment on le préserve. Et dans les zones U, on peut préserver en plus les zones boisées. Et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'on a un programme de plantation de 50 000 arbres.
Alors, on va y revenir longuement, donc un peu plus tard. Alors, pour l'instant, essayons de rester au niveau de la ville dans sa globalité. Alors, récemment, il y a eu une déclaration de Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique et des territoires, et qui nous a un peu surpris, puisqu'on est passé d'un accord que l'on avait à plus 2 degrés, qui était celui des accords de Paris. Et il nous annonçait un réchauffement de plus 4 degrés, enfin un travail en tout cas de prospective à plus 4 degrés. Alors vous en pensez quoi d'abord ?
Alors prendre comme chiffre plus 4 degrés, pour le coup c'est plutôt réaliste, malheureusement. Vu la trajectoire qu'on connaît aujourd'hui, et vu l'évolution du monde, de ce qui est fait à l'échelle mondiale mais aussi à l'échelle de la France, c'est sûr qu'on ne va pas rester sur les 1,5 ou 2 degrés qui étaient annoncés à la COP à Paris. Donc prendre en compte ce chiffre, je pense que c'est plutôt du bon sens.
Parce que tout va plus vite en fait.
Parce qu'en fait, tout va plus vite et aussi parce qu'on ne met toujours pas en place des politiques publiques qui permettent de ralentir en fait, le réchauffement climatique. Donc, si les politiques ne se mettent pas en place, ben forcément, la température va augmenter et il va falloir s'adapter.
Alors, par exemple, on apprend que la région pourrait être aussi aride que le Maghreb aujourd'hui. Donc, à plus 4 degrés, ça voudrait dire ça. Mais oui, ça voudrait dire bien d'autres choses encore.
Tout à fait. Alors, ça veut dire, oui, des problèmes d'aridité, ça veut dire de très, très fortes chaleurs. Enfin, ça veut dire des conditions de vie qui deviennent vraiment très, très, très compliquées et auxquelles on n'est pas du tout habitué, auxquelles la ville n'est pas adaptée. On y travaille, mais c'est un palier énorme de penser une ville avec des pointes à 50 degrés. Là, la vie est complètement différente, ouais.
Et là, vous allez avoir un gros, gros travail parce que, en fait, ça n'existe pas dans les dossiers.
C'est ça. En fait, il y a quelque chose qui est à imaginer. Il faut imaginer, il faut réfléchir, il faut imaginer une ville comme Montpellier en 2050 ou en 2100 avec des pointes régulières à 50 degrés. Et ça reste à imaginer. On ne connaît pas, en fait. Alors, on a des pistes, il y a des idées d'aménagement qui permettent d'adapter, mais je crois qu'on ne voit pas vraiment ce qui va nous arriver.
Et encore, quand vous dites 2050-2100, vous êtes généreux parce que c'est loin un peu pour les gens. Mais on parle même de 2030.
Oui, bah, on a déjà l'été dernier, hein, on a connu quand même des pics de chaleur assez incroyables et on a vu que c'était difficile d'être en ville.
Alors, une des difficultés va être bien sûr la résistance de la biodiversité. Donc le territoire montpelliérain fait partie des 35 hotspots mondiaux, c'est-à-dire en fait les plus riches en biodiversité. Et vous avez une chance car vous êtes épaulé par un secteur de recherche très en pointe sur la biodiversité à Montpellier. On a le CEFE, qui est une des plus importantes unités de recherche en écologie en France. On a eu aussi de nombreux chercheurs qui ont fait partie de l'IPBES, donc qui ont réfléchi à la Convention sur la biodiversité. Et puis, bien sûr, vous avez tous les grands labos. Alors, tout cela se réunit pour vous aider à penser la biodiversité.
Oui, tout à fait. Là, à Montpellier, on a une chance incroyable. On a un monde de la recherche assez inédit à l'échelle mondiale. Et c'est vrai qu'on travaille déjà beaucoup avec ce monde de la recherche. On a signé une convention avec le CEF, notamment, qui nous accompagne avec cette idée que il faut favoriser la recherche, mais il faut aussi que ça permette de mettre des choses en place concrètement dans l'espace public. Et là, on est en train de réfléchir à quelque chose à plus grande échelle avec un programme qu'on appelle Écologie de la santé. Et l'idée, c'est de fédérer plus largement que le CEF, tous les instituts de recherche montpelliérains autour de cette notion d'écologie de la santé. Alors, l'écologie de la santé, ça veut dire faire le lien entre la santé et l'évolution des écosystèmes. Et comme à Montpellier, on a les chercheurs en écologie vraiment, vraiment pertinents, performants, on va pouvoir monter quelque chose qui est... le seul équivalent connu, c'est Singapour. Donc là, on a vraiment un appui fort de la recherche.
Alors vous, quand vous parlez, bien sûr, de lien entre les écosystèmes et la santé, vous savez ce que ça veut dire, mais est-ce qu'on peut rappeler à nos auditeurs pourquoi on crée ce lien entre écosystème et santé? Ce n'était pas quelque chose... Avant le Covid, on ne parlait pas de ça.
Oui, tout à fait, oui. Alors, le lien entre écosystème et santé, par exemple, des évolutions du climat ou la sécheresse peuvent favoriser certaines espèces invasives. Et ces espèces, provoquer des maladies.
Comme les moustiques, par exemple.
Comme les moustiques. Les moustiques, c'est l'exemple le plus simple et le plus clair. Et c'est vrai que dans la région, toutes les maladies qu'on connaît, chikungunya, etc., vont sans doute devenir endémiques. Et donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, comment on peut limiter aussi la place du moustique en ville et comment donc s'adapter à cette situation nouvelle.
Alors, tout à l'heure, on évoquait le CEFE. Est-ce qu'on peut décliner un peu le sigle déjà?
Alors, c'est le Centre d'écologie évolutive et fonctionnelle. Fonctionnelle et évolutive, pardon.
Et alors, ça veut dire quoi, alors?
Alors, vraiment, bon, le CEFS, voilà, le nom est un peu élargi, mais c'est vraiment, ils sont centrés sur les questions d'écologie, vraiment. Sur les questions, on va dire, vraiment, le mot, ce serait aussi écosystème ou ce serait biodiversité. C'est vraiment là le centre de leur travail. Par exemple, on a des chercheurs qui travaillent sur le sol, beaucoup, sur l'écosystème que constitue le sol. Et on parle à ce moment-là de trame brune, donc voir comment les sols, en fait, sont une ressource de vie et comment fonctionne ce sol, par exemple.
Et Montpellier se trouve concerné par ce type de problème ?
Toutes les villes, en fait, ont un problème de sol parce que, voilà, on a urbanisé, on a bétonisé, on a goudronné et on a des sols qui sont en général très dégradés et qui ne jouent plus leur rôle. Notamment en termes d'absorption des précipitations, on a des sols où l'eau ravine finalement. Et c'est parce que ce sont des sols qui ont été goudronnés, bétonnés, ou parce que ce sont des sols qui sont morts tout simplement, qui sont tassés, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de vers de terre pour faire un peu remuer les choses. Et donc on a une vraie problématique de reconstitution des sols en milieu urbain.
Alors vous évoquez aussi les épidémies possibles. Enfin, ou les atteintes à la santé possibles avec le réchauffement. Vous avez évoqué, bien sûr, les moustiques, ça, on en a déjà parlé un petit peu. Mais est-ce que vous avez identifié aussi d'autres types de problèmes ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas identifié encore des maladies typiques d'un réchauffement.
Vous attendez que les chercheurs...
Oui, alors il faudrait vraiment comparer à d'autres zones, par exemple du sud de la Méditerranée, pour voir un peu ce qui se fait. Mais ça, on n'a pas encore une vue précise là-dessus.
Ouais. Ah, c'est long, c'est difficile.
Ouais. Ah oui, il nous faut de la donnée, il nous faut des informations. Ouais. Ouais.
Et on manque encore de connaissances.
En tout cas, moi, je n'ai pas encore toutes les connaissances là-dessus, ça c'est sûr.
Alors, vous avez cette collaboration donc, avec les chercheurs qui va être de plus en plus soutenue, à mon avis. Et vous travaillez en même temps sur des actions d'éducation et de sensibilisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a le top niveau et puis vous essayez de sensibiliser un peu le grand public.
Tout à fait, tout à fait. Il y a le monde de la recherche, mais il y a aussi les habitants qui sont les premiers quand même concernés par l'évolution de cet espace, et les habitants et les enfants, évidemment. Alors, on travaille beaucoup avec les enfants, notamment sur les projets de végétalisation. Alors, par exemple, avec les cours d'école végétalisés, on désimperméabilise 4 écoles par an. Et c'est l'occasion, en fait, de faire toute une sensibilisation des enfants sur les questions de végétalisation, de sol, de ruissellement. Enfin, voilà, c'est un vrai projet pédagogique complet qui accompagne ça, ces désimperméabilisations de cours d'école.
Alors, on dit souvent que, finalement, il y a eu une erreur de fait dans la sensibilisation à l'environnement. C'est-à-dire qu'on a appris aux enfants en bas âge à recycler les déchets, etc., etc., à être sensibilisés à l'écologie. Et puis, subitement, ils arrivent à l'adolescence. Et alors là, ils oublient tout. Ils deviennent absolument plus du tout... Enfin, ils rejettent l'écologie. Mmh. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ?
Alors, j'ai le sentiment que c'est quand même de moins en moins le cas. Je trouve que les jeunes, que ce soit à l'école primaire ou au collège, sont quand même de plus en plus sensibles. Et ils y sont parce que au niveau scolaire, quand même, l'éducation à l'environnement, à l'écologie est présente. C'est quelque chose que les enseignants quand même portent beaucoup. Donc je les trouve quand même plus sensibles que précédemment. Ouais.
Donc ils restent.
Oui.
Vous les gardez.
On les garde après, on les garde pas tous et tout le monde n'est pas sensible. Mais moi, alors, il s'avère que je suis CPE dans un lycée et les lycéens que je côtoie, ils sont très sensibles, vraiment.
Alors, vous avez lancé l'opération 50 000 arbres d'ici 2026, ça a démarré. Et cette densification, nouvelle plantation, etc. Alors, parlez-nous un petit peu des arbres. On sait que la population y est très attachée. En fait, dès qu'on touche à un arbre, on voit immédiatement se réunir toute une foule. Et pourtant, est-ce que ça représente finalement cet attachement un atout ou une difficulté ? Et quels obstacles avez-vous rencontrer que vous n'aviez pas identifié peut-être.
Alors la mobilisation des habitants, pour moi, c'est un atout, clairement. Régulièrement, quasiment, enfin là, encore la semaine dernière, j'ai été sollicité par des habitants qui avaient constaté un début d'abattage d'arbres et qui tout de suite m'ont sollicité pour qu'on vérifie si c'était bien légal, si tout simplement les arbres étaient classés ou pas. Et donc on a pu lancer tout de suite une vérification et voir en l'occurrence que la parcelle était classée et donc il n'y avait pas le droit d'abattre. Et on a envoyé une personne assermentée de l'urbanisme pour se rendre auprès du propriétaire. Donc là vraiment les habitants sont des alliés. Et ils sont que des alliés, il n'y a pas de...
Pourtant des fois, par exemple on a vu à Carnon, ils se mobilisaient pour des platanes qui étaient finalement, qui n'auraient jamais pu pousser là où ils étaient. Donc il était peut-être bien de les enlever et de les remettre ailleurs, non ? Il n'y a pas de...
Alors, il y a parfois, je connais pas bien le dossier de Carnon et je veux pas me prononcer dessus. Parfois, effectivement, il faut abattre certains arbres parce qu'ils posent des problèmes de sécurité. Mais quand on présente la problématique aux habitants, en général, il y a pas de problème, ils comprennent. Je prends pour exemple les platanes qu'on a pu abattre sur l'esplanade récemment. On en a abattu une vingtaine, on a expliqué pourquoi. En fait, ils étaient creux et ils manquaient.
Et vous avez laissé, on peut les voir.
Voilà, on a laissé une partie des troncs pour qu'on puisse voir qu'ils étaient vraiment complètement creux. Et en fait, les gens nous font confiance. Ils savent que nous, on a quand même cette volonté de défendre le patrimoine arboré, qu'on est transparent. Et on a, je n'ai aucune difficulté. À Carnon, je pense qu'il y avait un autre projet aussi derrière. Là, on les a battus parce qu'on ne voulait pas qu'ils tombent sur les gens. C'est tout, tout simplement.
Alors, vous avez parfois d'autres problèmes aussi qui sont liés. Par exemple, il n'y a pas que la population. Il y a aussi les problèmes de patrimoine. Hein. Par exemple, le platane reste quand même quelque chose, une espèce qu'on vous impose, mais en tout cas qu'on vous propose.
Alors, plus maintenant. On avait une difficulté avec l'architecte des bâtiments de France sur les alignements historiques parce que on a des alignements de platanes et l'idée c'était de garder une certaine unité paysagère dans ces alignements. Mais tout le monde a bien compris que vu la situation et cette maladie qui s'appelle le chancre coloré pour le platane, on ne peut plus aujourd'hui planter de platane. Donc on ne plante plus aucun platane sur la ville de Montpellier et je pense qu'il y a très peu d'endroits maintenant où on en plante. Et à partir de là, l'idée, c'est de voir comment on remplace ces platanes.
Alors, vous avez un nouveau modèle qui s'est un petit peu ouvert il y a quelque temps avec un maire écolo, justement, puisque Damien Carême a été un des premiers, je pense, en France, à planter des fruitiers. Il est maintenant député européen, il n'est plus maire de Grande-Synthe, mais son exemple, j'ai un peu l'impression, fait boule de neige. Hein.
Oui, alors ça dépend où on plante. C'est-à-dire que dans les alignements, on va dire, de cœur de ville assez historique, on ne va pas planter de fruitiers parce que ce sont de petits arbres, on va dire. Dans les alignements, on remplace les platanes, par exemple, par des chênes chevelus ou des ormes ou certaines espèces de micocouliers. Par contre, c'est vrai que dans des zones plutôt dans des parcs, on va planter des fruitiers. On en plante de plus en plus. Ce sont des arbres résilients, nourriciers, enfin qui sont vraiment très positifs. Donc c'est une grosse tendance, tout à fait.
Et puis c'est un symbole aussi, parfois, par exemple, vous avez des parcs qui sont le parc d'Arménie, vous avez mis des arbres symboliques.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'était le fruit d'une rencontre avec Madame l'ambassadrice qui était venue pour inaugurer le parc il y a un an et demi maintenant. Et on avait échangé et puis on s'était dit que c'était une bonne idée de planter des grenadiers et des abricotiers dans le parc d'Arménie, qui sont les arbres symboles de l'Arménie. Donc ça coïncidait en fait avec notre politique aussi de développer les arbres fruitiers, tout à fait.
Très bien. Alors récemment, en tant que délégué à la ville et à la biodiversité, vous avez été chargé de l'accueil de Rob Hopkins le 4 avril dernier. Alors, rappelons que Rob Hopkins est un enseignant en permaculture, il est l'initiateur du mouvement des villes en transition, donc bien sûr, il y a sa ville modèle que l'on retrouve en Angleterre, mais aujourd'hui, on compte plus de 2000 initiatives de villes en transition dans 44 pays et 150 en France. Alors, vous l'avez reçu à l'Agriparc des Buises, un lieu de nature en ville, et donc, je suppose que cette rencontre laisse des traces. Parlez-nous-en un petit peu.
Oui, c'était vraiment une très belle rencontre. Rob Hopkins, en fait, c'est quelqu'un qui stimule, qui donne envie de continuer à réfléchir, de continuer à avancer. Ce que je retiens de lui et de sa venue, c'est cette idée qu'il faut voilà, stimuler notre imaginaire. Il faut faire confiance à notre imaginaire. Il faut se dire que ce qu'on imagine, même si ça a l'air d'être impossible comme ça, bah, sans doute que ça l'est, en fait. Voilà, donc il nous a présenté, il a fait une conférence aussi le soir après l'après-midi à l'AgriParc, et il nous a présenté des rues qui étaient au départ très très routières et qui étaient devenues vraiment des havres de paix, et je trouve que c'est un modèle. C'est vraiment un modèle, oui.
Mais justement, est-ce que vous en avez tiré pour vous des choses, hein, et que vous pensez que vous allez pouvoir mettre en application ?
Oui. Ben, en fait, sur le fond, on est vraiment sur la même option, hein, et l'idée, c'est de créer, voilà, des espaces de fraîcheur, des espaces apaisés. C'est déjà aussi ce qu'on fait à Montpellier avec notre programme de quartier apaisé, avec cette idée qu'il y ait moins de voitures, qu'il y ait plus de végétalisation, qu'on désimperméabilise. Donc on l'a fait dans différents quartiers. Là, c'est en cours dans le quartier des Arceaux, à Boutonnet aussi. Et là, l'idée, c'est que vraiment, on y aille doucement et on végétalise le plus possible. Et quitte à supprimer des places de parking pour désimperméabiliser.
Alors vous voulez dire il faut y aller doucement ?
Alors, doucement, ce que je veux dire, c'est que dans ces quartiers, il faut que ce soit apaisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse déambuler à pied, à vélo, en toute tranquillité, sans se sentir en danger.
Mais par contre, pour agir, il va falloir aller vite.
Oui, il va falloir aller vite, il va falloir accélérer. Il va falloir accélérer. La ville n'est encore pas adaptée, effectivement, à un climat du type Andalousie. On part de très très loin, puisque la ville n'a pas été construite pour ça. Donc, voilà, on désimperméabilise, on commence à avancer. Mais oui, il va falloir aller beaucoup, beaucoup plus loin.
Mais alors, il faut enlever le béton. Et comment on fait pour enlever le béton ?
Il faut désimperméabiliser partout là où c'est possible. Ça veut dire concrètement...
Vous avez commencé à faire, hein. Et comment réagissent les gens ?
En fait, le seul problème qui peut être rencontré parfois, c'est qu'on supprime des places de parking. Et ça, parfois, ça peut poser souci. Mais franchement, en cœur de ville, là, on n'a pas d'opposition particulière à la désimperméabilisation. Au contraire, les habitants sont très contents qu'on mette en œuvre ces politiques.
Ils savent ce que ça veut dire.
Oui. Ils ont bien conscience que ça veut dire rafraîchir la ville, ça veut dire moins de voitures. Oui, bien sûr, ils sont tout à fait conscients de ce qu'on fait. Oui.
D'accord. Alors, en fait, dès le départ de son mandat, le maire avait affiché une volonté d'action plus transversale, plus global. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se passer, ou bien est-ce que finalement on garde dans ce conseil municipal des gens attachés aux vieilles structures en silo, à un poste bien défini
Non, vraiment, moi j'ai le sentiment qu'on fait un travail qui est vraiment en transversalité. Moi je travaille beaucoup avec mes deux collègues à l'urbanisme, donc Marie Sfaille à la ville et Coralie Mention à la métropole. Hein. Je suis pas, justement, ce que je disais tout à l'heure au début, je ne suis pas cantonné dans mes espaces verts. Je mets le nez dans le PLUI qui est vraiment un travail d'urbanisme. Ma collègue à la ville, à l'urbanisme, quand elle travaille sur les AC, elle travaille aussi sur les espaces verts. Enfin, les choses se recoupe vraiment, on n'est plus dans des silos comme avant, et on a plus chacun notre direction à nous, avec nos services à nous.
Mais il y a des résistances ?
Il y a des habitudes, ça c'est normal, il y a des habitudes, mais franchement là-dessus on a quand même progressé, quoi. Vraiment.
Très bien. Alors, il y a cette fameuse loi sur les zones non artificialisées, tout ce qu'il faut, le ZAN qu'il faut absolument pas prendre sur les terres agricoles. Mmh. Et pourtant, on a une demande de logement extrêmement importante. Alors, est-ce que ça va être un des gros problèmes ? Est-ce que vous avez déjà des pistes pour le résoudre ? Comment vous l'imaginez ?
Alors c'est sûr que c'est une difficulté, parce qu'on a effectivement une ville dont la population, une ville et une métropole dont la population continue à augmenter. par les naissances, mais aussi par le nombre de personnes qui arrivent. Et ces personnes, elles ont besoin de logements. Donc, on a encore besoin de construire des logements. Et il faut construire et en même temps, voilà, ne pas bétonner de surfaces supplémentaires. Alors, c'est une difficulté. Une des solutions, c'est de parfois, quand c'est possible, de construire en hauteur. Donc on a certains projets d'immeubles à R+10, R+12. Voilà, il faut que ces projets soient évidemment qualitatifs. Donc ça permet de gagner du terrain. Et en même temps, il faut dire aussi, d'accord, on accueille une partie de la population, mais stop, c'est-à-dire que certaines zones, eh bien, on va les sanctuariser et on ne va pas construire. Vous parliez tout à l'heure de l'aéroparc des Bouisses, c'est vraiment l'exemple type. C'est-à-dire que quand on est arrivé en 2020, il était prévu d'urbaniser une cinquantaine d'hectares sur cette zone, et eh bien on va en urbaniser 9 seulement. Donc voilà, on a fait le choix, on a dit stop, on ne va pas plus loin, on a besoin de nature en ville, on a besoin d'espace de fraîcheur et on ne peut pas bétonner toute la ville.
Hier, on était à plus 1,5 degré. Finalement, vous avez commencé à travailler, vous, sur cette base. Mmh. Aujourd'hui, on est à 4 degrés. Donc, une réunion du CODEF, d'ailleurs, a récemment évoqué Montpellier à 50 degrés, comme en Andalousie, vous évoquiez ouais. tout à l'heure. Ouais. Alors, croyez-vous être prêt et quelles vont être les urgences?
Bah, une des urgences, en fait, c'est de la rénovation thermique des bâtiments. Et là, si on n'a pas une aide massive de l'État, clairement, on n'y arrivera pas. Il faut en urgence s'attaquer au maximum de bâtiments. Et c'est vraiment le meilleur moyen pour à la fois atténuer et s'adapter. Et on en est encore très, très, très loin. Et c'est quelque chose qui avait été prévu par la Convention citoyenne pour le climat. Et ça n'a pas été repris, comme une majorité de mesures, malheureusement, n'ont pas été reprises par le gouvernement. Et pourtant, là, on a un vrai, vrai besoin. C'est comme ça qu'on peut vraiment impacter. D'où le mouvement citoyen qui s'appelle Dernière Rénovation, dont vous avez peut-être entendu parler, qui insiste là-dessus. Et ça, on peut le faire, mais on ne le fera pas tout seul. La collectivité ne peut pas le faire tout seul. Et c'est pas, ce ne sont pas les aides, le fonds vert, par exemple, qui a été prévu de 2 milliards d'euros qui va permettre vraiment de faire quelque chose. Vous imaginez 2 milliards d'euros pour toute la France, alors que pendant 7 ans, on va dépenser 400 milliards d'euros pour le domaine militaire. Enfin, les choses sont quand même complètement disproportionnées. 2 milliards d'euros, c'est une poussière.
Et vous pensez que vous allez pouvoir obtenir davantage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça?
Ah ben, nous on va évidemment mettre en avant nos difficultés et nos besoins. Après, il y a des choix politiques qui sont faits et malheureusement, voilà, ce sont pas forcément les mêmes que ceux que nous souhaiterions. Mais on va mettre en avant les besoins, c'est sûr.
Merci Stéphane Jouot.
Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.